L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes aujourd'hui en Aquitaine, au cœur d'un été comme la fin du Moyen-Âge en a encore rarement connu. Il n'a pas plu depuis des semaines. Le soleil, déjà en ce tout début de matinée, brûle d'une ardeur folle. Sur les toits des tours et des bâtiments de la forteresse de Taillebourg se reflètent ces lueurs. Et à l'intérieur de l'enceinte, les marchands et les badauds se saluent et échangent des amabilités, somme toute classiques. Tout va bien, pour résumer. Rien ne semble pouvoir perturber ce début de journée aux allures de paradis. Rien. Absolument rien, si ce n'est la cohorte de cavaliers venant de la garde du roi et qui emprunte à vive allure le chemin bordant l'accès au château, bousculant certains passants à grands coups de cris et de bottes. La mine fermée, les porteurs d'uniformes à la fleur de lys dorée apparente sont suivis par une sommaire calèche. Elle est conduite par un homme patibulaire dont les expressions faciales ne trompent pas. Tous ces hommes sont envoyés par le roi lui-même et ils sont venus mettre quelqu'un sous les verrous. Pourtant, le notable que ces hommes viennent chercher est intouchable depuis de nombreuses années. C'est lui qui tient les cordons de la bourse d'un royaume qui se relève à peine de la guerre de Cent Ans. Il s'appelle Jacques Cœur. Et les accusations portées contre lui sont lourdes. Elles sont même très lourdes. Il est soupçonné de meurtre. Et pas n'importe lequel. Celui de la maîtresse du roi Charles VII. Agnès Sorel. Nous sommes le 31 juillet 1451, il est 8h, c'est l'heure H de mon histoire. Au même moment, le grand argentier du souverain sort de ses appartements privés en plein cœur de ce domaine à la riche histoire. Taillebourg, c'est un château à la réputation qui n'est plus à faire. Un magnifique ouvrage, comme seuls les artisans du Moyen-Âge étaient capables d'en construire. Richard Cœur de Lyon, Louis VII de France. Ils sont nombreux, les souverains qui, soit y ont résidé, soit y ont lancé des expéditions pour le prendre. Sa réputation de forteresse y est certainement pour quelque chose. Mais aujourd'hui, la paix est revenue à Taillebourg. Pourtant, non loin de là, 200 ans plus tôt, Saint-Louis lui-même a livré bataille sur ses terres. Le sang a coulé de nombreuses fois dans ce petit coin d'Aquitaine. C'est ce lieu qu'a choisi Jacques Cœur pour se retirer quelque temps, loin de sa ville de Bourges, loin aussi et surtout des regards indiscrets et des complots. Agnès Sorel est décédée depuis plus d'un an. Cette femme réputée pour être la plus belle du monde, blanche comme la neige, fine comme une feuille, est le grand amour du roi. L'histoire de son décès est sordide. Jacques Cœur, sur les remparts, tourne le dos aux hommes qui sont venus le chercher et qui s'apprêtent à pénétrer dans l'enceinte de son refuge de pierre. Il porte ses yeux sur la nature qui s'étale devant lui et qui bouge au gré de la position de l'astre solaire. Le grand argentier du roi, au firmament de sa puissance, du moins c'est ce qu'il croit, roule des mécaniques. Il aperçoit une biche qui passe le long d'un petit ruisseau et il replonge au moment de la mort de la favorite royale. Ces images le hantent depuis que tout ceci s'est déroulé. À 28 ans seulement, un matin comme celui d'aujourd'hui, la jeune femme enceinte avait été saisie de maux de ventre tels qu'il l'avait subitement conduite dans la tombe. Une petite fille, prématurée d'à peine 7 mois, était venue au monde, vivante. Mais sans doute victime du même mal que sa mère, elle n'avait pas tardé, à peine baptisée, à la rejoindre dans la mort. Le roi, fou de chagrin, s'était isolé, avait renvoyé chez lui son conseiller sans ménagement. Jacques Cœur avait mis ça sur le compte de la tristesse qui, parfois, assaille les hommes avec une telle violence qu'elle vous fait perdre la raison et le sens commun. Mais il n'en est rien. Le conseiller l'ignore, mais cette tristesse, rapidement chez le souverain, s'était transformée en colère, froide, totalement et absolument impulsive, incohérente et destructrice. Le souverain est persuadé que sa maîtresse s'est fait empoisonner et que le coupable, c'est son grand argentier. Il faut dire que l'homme attise depuis longtemps les jalousies de certains autres membres de la cour royale. Certaines rumeurs sont arrivées jusqu'aux oreilles de Charles VII, qui les a crues sur parole. Et aujourd'hui, il a décidé de mettre hors d'état de nuire l'homme qui a pourtant sauvé le pays à de nombreuses reprises. Qui, lui, les mains posées sur les murailles chaudes de ce château dont il espère la quiétude, ne se doute de rien. Du moins, pas encore. Mais cela ne saurait tarder. Les cavaliers du roi sont entrés dans l'enceinte. Jacques Cœur est fait comme un rat. Un de ses plus proches amis, quelques minutes après, est venu le chercher en haut des remparts. Des hommes, en bas, le font mander, séance tenante. Le conseiller comprend dans le regard de son ami que les nouvelles ne sont pas bonnes, mais en confiance, avec l'idée de recevoir la visite d'un émissaire de son ami le roi, il s'avance, sans crainte, vers ses soldats qui l'accueillent d'un air glacial. Dans la calèche, depuis le départ, un capitaine des gardes se cache. Il ne sortira que lorsque Jacques Cœur sera assez proche pour ne plus s'enfuir. À la vue de l'officier, le grand argentier a compris. Il est foutu, totalement cerné. Avant même que le membre de la garde royale ne lise son ordre d'arrestation, il clame son innocence, hurle qu'il y a méprise. C'est impossible. Pourquoi aurait-il mis à mal la vie d'une femme qu'il appréciait lui aussi, tout particulièrement? Mais c'est bien connu. L'armée, quand elle est en mission, est une grande dame totalement sourde, imperméable aux doléances de ceux qui sont mis en cause. Lentement, deux des cavaliers, la main sur la garde de leur épée, descendent de cheval et se dirigent vers notre héros. Ce dernier tente de mobiliser la foule de curieux qui se tient là, de plus en plus nombreuses, mais non, rien n'y fait, personne ne bouge. Les fleurs de lys sur ses tenues sont assurément les symboles les plus craints de l'autorité centrale. Un geste et c'est la mort. Et de toute façon, en Charente, le conseiller n'a que peu de connaissances parmi les badauds. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas à Bourges. Un bref regard autour de lui et il comprend que toutes les protestations du monde ne pourront rien changer. Il prend plus de risques qu'autre chose à montrer ses signaux de désobéissance. Le capitaine des gardes qui est là, oh, il le connaît. Trapu, vicieux, toujours en quête de mission lui permettant de se faire une place dorée tout près du trône. Non, il ne pourra pas le soudoyer, non, impossible. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que Charles VII l'a envoyé, lui et pas un autre. La mine grave, l'homme qui devient en l'espace d'un petit instant son geôlier, le pousse dans la calèche dans laquelle un banc sommaire en bois et surtout une chaîne à mettre au poignet l'attendent. Il y a quelques minutes, Jacques Cœur était encore l'homme le plus puissant du royaume. Une véritable star dont la puissance financière lui permettait toutes les folies. Et le voilà qu'il bascule à présent dans la catégorie des anciens influents disgrâce. Et pire, c'est la case prison qui l'attend. Et les cellules de la fin du Moyen-Âge sont loin, très loin d'être les plus agréables. Alors que la geôle roulante démarre, le capitaine des gardes en face de lui le toise d'un regard d'acier, accompagné d'un sourire aussi sarcastique que celui des pires traîtres. Jacques Cœur est alors victime d'une attaque de panique. Pour la première fois de sa vie, il n'a pas le contrôle sur une situation dans laquelle il semble très mal embarqué. C'est un euphémisme de le dire. Une oppression dans la poitrine, les mains moites et le poignet droit pris dans cette chaîne froide qui commence déjà à lui lacérer les chairs. Il tente de retrouver son calme, de réfléchir à ses différentes options, mais il n'en a qu'une, c'est subir. En route sur le chemin du désespoir, il se penche pour reprendre sa respiration et regarde le soleil, qu'il y a peu encore brillait si fort en haut des remparts. Tout va si vite dans la vie. Le destin ne tient parfois qu'à un fil. Et à la vision de ces bassesses dont seuls les hommes sont bien capables, l'astre solaire, lui, s'est lassé. des nuages sont venus le couvrir et le château de Taillebourg, comme son ancien locataire, plonge dans la pénombre des jours incertains. Notre histoire, elle, s'égrène et continue quelques années plus tard. La vie de Jacques Cœur a totalement basculé. Fini les tuniques de soie rouge venues d'Orient, fini les couvre-chefs assortis à la tenue et dont un morceau descend sur les épaules. Fini la puissance, fini la richesse. Fini la place tout près du trône aussi. Voilà notre homme, prisonnier d'une cellule de laquelle il ne peut pas sortir. Nous sommes le 1er octobre 1454, à Poitiers. Dans un château triangulaire dont la réputation de prison d'État n'est plus à faire sous le règne de Charles VII. Voilà plus d'un an qu'il est enfermé et l'humidité de sa cellule est telle que des rhumatismes commencent à attaquer les os du fringant quinquagénaire. Il n'a jamais fait son âge, mais il n'est pas idiot. La réalité, dans ce lieu de malheur, le rattrape à grandes enjambées. En l'espace d'un an, c'est comme s'il en avait pris 10. Sa barbe a poussé avec des trous, mais elle est grise, plus brune. Ses cheveux, pour la plupart, sont tombés et son dos, lui, s'est voûté, à la manière d'un vieillard. L'ancien grand argentier du royaume s'est alourdi, à vitesse grand V. Faut dire que le procès qui s'est tenu à Paris a été particulièrement éprouvant. D'ailleurs, l'exécuteur testamentaire de la défunte favorite a rapidement été écarté de la liste des suspects pour cette affaire. Non. Comme une parodie de justice, le procès n'a pas porté sur ce cas bien précis pour lequel, pourtant, il a été mis derrière les barreaux. Les accusations se sont transformées, ont été manipulées par ceux qui voulaient absolument le voir tomber. Au bout d'à peine quelques jours d'instance, on lui a mis sur le dos des accusations de malversation financière. Jacques Cœur, outré, c'est bien compréhensible, n'avait pas été surpris. Ce type de cabale, c'est du pain béni pour ceux qui veulent trafiquer la vérité. On fait dire ce qu'on veut à des chiffres, quels qu'ils soient. L'ancien grand argentier le sait mieux que quiconque. Le prisonnier observe les gouttes de pluie qui tombent et qui se répercutent contre la pierre ou contre la petite ouverture qui lui sert de fenêtre dans la roche. De temps en temps, par un rebond inattendu, l'une d'entre elles vient mourir sur sa peau ridée par l'angoisse et la souffrance subie. Il ne cesse de repenser, saisi par l'horreur, à ce simulacre de procès qu'il avait subi. Lui, l'ancien protégé incontestable du roi. Charles VII, immuable, n'était pas venu à son secours. L'ancien conseiller ne comprenait pas cette attitude. Comment une amitié qu'il pensait sincère peut-elle se retourner de cette manière, du jour au lendemain ? La tête couronnée avait tourné sa veste et s'en était allée, le laissant seul en proie à ses soucis et à ses difficultés, se dédouanant de tout et faisant fi de ses propres, royaux certes, sentiments. La colère, pour Jacques Cœur, avait laissé place au dégoût. Chaque jour que Dieu fait, cette parodie de justice lui met de nouveau mot sur le dos. C'est incompréhensible, totalement illogique. Pour être franc, il a beau se gratter la tête, il ne se souvient même plus de tout ce dont on a pu l'accuser. Émission de fausse monnaie, ça oui. Escroquerie sur des nobles et des bourgeois, ça aussi. Et surtout, et là, il ne fallait pas manquer de toupet, manque de fidélité auprès du roi. C'est à l'énoncé de sa sentence qu'il a compris, comme un coup de poing dans la figure, toutes les planètes se sont alignées. Enfin, la cour le condamne à 3 ans de prison. C'est un premier point, mais pire encore. On lui confisque tous ses biens, absolument tous. Son palais à Bourges, ses possessions immobilières dans tout le royaume, et pire, l'ensemble de ses propriétés monétaires. Tout ce qui est sonnant et trébuchant est saisi par la couronne. À la bonne heure pour le roi, Charles VII, qui est en effet sous la pression de nombreuses créances. Et vous voulez connaître le nom de son principal prêteur ? Celui qui a permis au roi Charles VII, 2 ans avant son arrestation, de reprendre la Normandie aux mains des Anglois. Jacques Cœur, comme par hasard. Les bons comptes font les bons amis, nous dit l'adage. Il aurait pu être signé de la main de l'ancien grand argentier, qui se retrouve à moisir en cellule privée de tout. Et il peut encore s'estimer heureux. Ceux qui murmurent contre lui à l'oreille du roi ont été tout proches d'obtenir sa tête. Cela n'a pu être évité que grâce à l'intervention de son ami, le pape Nicolas V. Comme quoi, disposer d'un bon réseau, c'était parfois la meilleure des assurances. Cela peut vous sauver la vie. D'un sourire en coin, Jacques Cœur, le nez sur la pluie, s'imagine en Italie, à Rome. Rome, la ville éternelle, le centre du monde. Désespéré, il retourne sur sa couche. Il doit réfléchir. Il y a forcément un moyen de forcer la décision, de redevenir maître de son destin. Ah, la nuit s'annonce studieuse. Le conseiller déchu ne va pas fermer l'œil. L'obscurité, si elle fait souvent peur aux enfants et aux plus anxieux, a toujours été son amie. C'est la nuit, à la lueur des bougies, que le vieillissant lynx a monté ses meilleurs coups. Avant d'être le prisonnier certainement le plus célèbre du royaume, il a usé de toute la malice possible pour devenir une véritable star. Né à Bourges, c'est là que tout avait commencé. La trentaine galopante, maître des monnaies de la magnifique ville du Berry en 1435, puis grand argentier, comprenez, ministre des Finances, 4 ans plus tard. Son arrivée à la cour, pompeuse, magistrale, avait attisé les jalousies les plus tenaces. Riche à millions, Jacques Cœur profite d'un réseau efficace pour tisser sa toile, à la manière d'une araignée dont les proies se prennent dans les filets. En 1442, devenu créancier de tous les principaux conseillers royaux, il entre au Conseil du roi, l'institution la plus célèbre, la plus influente du royaume. Prévoir une chute si brutale à cet instant était tout bonnement impossible. Le grand argentier met son nez partout, ouvre sa bourse à tour de bras, se rend serviable et prête à des taux qui défient toute concurrence. Oui, mais voilà, il avait vu un peu trop grand au début de l'année 1450. Du moins, il ne s'était pas méfié. De quoi ? Du fait de prêter directement à Charles VII. D'autres, avant lui, s'étaient décidés à devenir les créanciers du roi, les Templiers notamment. Et on connaît la suite. Ils ont fini sur le bûcher. Mais Jacques Cœur, lui, fait confiance à son ami. Après tout, en lui prêtant de l'argent, il permet au roi de reconquérir la Normandie, terre devenue ennemie depuis bien longtemps. Mais voilà, la dette qui pèse sur les épaules de Charles devient si lourde à porter qu'il commence à écouter d'autres voix. Ennemis de Jacques Cœur et qui lui doivent aussi de l'argent. Pour cela, le voir tomber, c'est le gage de ne jamais avoir à rembourser quoi que ce soit. Fourbes, déloyaux, ces hommes avaient fait basculer son destin. D'autant plus qu'un an avant sa mort, la jolie Agnès Sorel, amie de longue date de notre héros, l'avait nommé exécuteur testamentaire si elle venait à mourir. On l'a vu le nez fin, c'est moins que l'on puisse dire. Un an après, elle avait été poussée dans la tombe avec son bébé. L'occasion fut trop belle pour les détracteurs de Jacques Cœur pour entraîner sa chute. Ainsi pouvait se résumer, s'il devait le faire avec le recul que peut lui apporter l'enfermement dans sa cellule, son ascension et sa chute. Mais il ne compte pas se laisser faire. C'est hors de question qu'un homme comme lui, aussi futé, aussi malin, termine sa vie dans une cellule pourrie et humide. Non, non, il vaut mieux que ça. C'est vers 3 heures du matin que son dos, torturé par la planche de bois qui lui sert de lit, le réveille. Une lueur s'est allumée presque automatiquement dans son esprit. Sa porte de sortie, il l'a trouvée. Son gardien, celui avec lequel il a noué quelques liens, va pouvoir le faire sortir. En échange de quoi, il l'ignorait encore. Mais une chose est certaine, Jacques Cœur va s'évader. Ouais. Pour aller où ? À Rome, bien entendu, là où se trouvent ses alliés les plus fidèles. En tête de liste, l'homme qui dirige tous les catholiques du monde et qui détient aussi une partie de ses actifs, bien cachés, le pape. Celui qui a évité de voir sa tête rouler au pied du bourreau va également devenir, bien malgré lui, le complice d'une évasion qui, si elle réussit, sera l'une des plus célèbres de l'histoire de France. Mais à ce stade, rien n'est gagné. Jacques Coeur a encore tout à perdre. En premier lieu, la vie. Mais il ne se résigne pas. C'est pas son genre. Notre héros va passer le reste de la nuit à échafauder un plan qu'il juge imparable. Va-t-il parvenir à le mettre en place? Rien n'est moins sûr.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H s'intéresse au destin d'un homme qui, longtemps, a détenu les cordons de la bourse du royaume de France. Grand argentier de Charles VII, membre du Conseil royal, Jacques Coeur est victime au firmament de sa puissance, d'une chute aussi marquée que soudaine qu'il envoie en prison. Est-ce une cabale ? Les accusations contre lui sont-elles montées de toutes pièces ou une part de vérité, là, quelque part, se tapit-elle dans l'ombre ? En tous les cas, notre héros, enfermé à Poitiers, se décide à tenter le tout pour le tout et cela passe par, assurément, une tentative d'évasion. Elle s'annonce pour le moins risquée. Les chances de succès sont, elles, pour le moins incertaines. Nous sommes à la toute fin du mois d'octobre 1454. En un mois, Jacques Coeur a pu réunir ses partisans. C'est aujourd'hui que se profile le grand jour. Dans sa cellule, les heures paraissent des jours. Tout est prêt, tout est calé. Il est sûr de son coup, mais pour autant, notre héros a peur. Ce genre de sentiment qui vous colle une sensation des plus désagréables dans la gorge et dans l'estomac. L'ancien grand argentier s'est démené pour échafauder un plan qui puisse réussir, mais rien n'y fait. Quand on a la peur au ventre, le rationnel peut vite devenir irrationnel. Ses mains sont moites, son cœur bat à tout rompre. Rien n'est fini, tout commence, mais lui, déjà, n'est plus en mesure de garder son sang-froid. Son gardien s'appelle Antoine de Chabannes. C'est un homme bon qui a pris soin de son prisonnier, avant de se laisser soudoyer. Les poches pleines de pièces, il ouvre la porte scellée de Jacques Coeur avec précipitation. Son regard est vif, les pupilles dilatées. Sa transpiration excessive témoigne de son agitation. Les autres se doutent de quelque chose. Alors il faut partir, vite. Les affaires du prisonnier, depuis longtemps, sont prêtes. Tout tient dans deux sacs. Il devra voyager léger. Dehors attendent deux chevaux déjà prêts à partir. Le jour n'est pas encore levé et la brume de l'automne sera leur allié. Cela ne fait aucun doute. Ils ont maintenant quelques minutes, celles de flottement inhérentes au changement de garde. Ceux de la nuit vont rejoindre Morphée alors que ceux qui ont eu la chance de dormir un peu ne font que se réveiller doucement. Et en effet, ça marche. Les deux hommes évitent les regards et les salles bondées d'hommes en armes, esquivent les plus malins et sautent sur leurs chevaux. Le geôlier se fait ouvrir le pont-levis. Personne ne doute de sa bonne foi. Et aussitôt, voilà que Jacques Coeur se retrouve au milieu d'une nature d'automne qui se meurt, bien loin de cette maudite prison et de son manque de liberté. Il respire l'air frais tout en fermant les yeux, pose sa paume de main au contact de sa monture qui a un rythme effréné, le guide vers le paradis. Son paradis à lui, c'est celui-ci. La liberté envers et contre tout. Son évasion a réussi. Ce n'est pas pour autant que le plus facile commence, bien au contraire. Il va lui falloir arriver jusqu'à Rome. Et la tâche s'annonce ardue. Ses amis là-bas l'attendent déjà. Ses fils ont assuré le lien entre son projet et sa concrétisation. Ils ont versé les pots de vin à qui de droit, ont organisé le cheminement vers le terminus qu'incarne la basilique Saint-Pierre de Rome. Suivi de près par son complice, qui fut autrefois son gardien, Jacques Coeur se laisse aller à un galop salvateur. le vent et l'humidité du matin qui se collent sur son visage. Il semble déjà retrouver sa jeunesse perdue. Elle se cache là, le long des bois, derrière ces feuilles orangées qui tombent les unes après les autres. La nature qui se meurt, c'est avant toute chose le signe d'un renouveau qui viendra dans quelques mois. Il voit dans ce phénomène un véritable symbole, celui de sa propre vie qui recommence ailleurs pour faire autre chose. Après tout, si le roi l'a trahi, d'autres vont payer cher ses services. Il est le roi des marchés financiers et l'Europe entière le sait. Le pape l'attend aussi pour ça. L'homme de Dieu, chef spirituel de tous les catholiques, est un homme particulièrement puissant. Jacques Coeur le sait pertinemment. Sous son aile, d'autres projets, d'autres opportunités aussi vont pouvoir naître. L'ancien grand argentier du roi n'a plus peur, non. Il est libre, sur le chemin de la paix, enfin. Ceux qui ont voulu le piéger n'ont pas fini d'être verts de rage. Son cheval décélère à l'approche d'une petite descente. Et Jacques Coeur, lui, il rit. Il respire à plein poumon. Rien n'est plus beau, plus fort que de se sentir libéré d'une situation de gêne ou d'inconfort. Rien n'y finit, non. Eh oui, 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 tout commence. Pour autant, vous pouvez me croire, la route jusqu'à Rome n'a pas été si facile pour notre héros du jour. Bien au contraire. Il a pu compter sur sa famille, ses amis restés fidèles et même certains agents royaux, son ancien geôlier en tête, pour s'échapper. Si son plan d'évasion est un franc succès, il ne sera pas rattrapé par la garnison de Poitiers. La bataille suivante est tout aussi importante. Atteindre l'Italie du centre de la France est un long périple, dangereux, incertain, surtout à l'époque. Des bandits de grand chemin et autres joyeusetés de ce genre peuplent les routes du royaume. Et surtout, une fois le roi mis au courant de son escapade impromptue, il faudra aussi se méfier des soldats à son service lancés à sa poursuite. Et ils seront quelques-uns. Il faut donc se faire tout particulièrement discret, surtout ne pas attirer le regard de ceux qui sont hostiles à sa cause. Ses partisans, heureusement, sont nombreux. C'est d'abord dans la région de Limoges que notre homme va trouver refuge. Des prieurés, des églises. Il se cache des yeux du monde en endossant les mœurs religieuses. Comme un avant-goût du Vatican. Son fils est archevêque de Bourges, et c'est évidemment un avantage pour se faufiler entre les moines et les chanoines. Mais cette solution ne peut être que temporaire, et il le sait bien. Jacques Coeur doit se résigner à prendre la route du comté de Provence, qui n'est pas encore intégré au royaume à cette date. Une fois cette frontière dépassée, logiquement, tout ira mieux. Mais encore faut-il y parvenir. En effet, déjà, les troupes royales sont à ses trousses et ne le lâchent pas d'une semelle. Notre héros se joue d'eux, mais au moment de franchir le Rhône, il se trouve confronté aux caprices des éléments. Le fleuve est infranchissable. Il doit le contourner. Il décide de se rendre à Beaucaire, une ville située non loin de là, mais qui, au bout de quelques jours, se retrouve totalement assiégée par ses poursuivants. La seule solution serait de demander de l'aide. Encore. Cette fois, il sollicite l'un de ses cousins qui habite Marseille. Il le convainc de monter une incroyable expédition de sauvetage. Jean de Village, c'est son nom. Réunit des partisans et se dirige vers Beaucaire aussi vite que possible. La petite bande prend une barque à Tarascon et ils parviennent à se coller en pleine nuit le long de la muraille de Beaucaire qui se trouve sur le Rhône. Là, faisant fi de tous les dangers, ces hommes vont à l'aide de pioches faire une brèche dans le mur et extirper Jacques Coeur de son piège de roche. Le fugitif est sauvé. Enfin, du moins, pour un temps. Le fleuve est dangereusement franchi et la poursuite, elle, continue. À Tarascon, notre homme s'exclame plein d'euphorie qu'il est libre. Il a raison. Le roi René l'accueille à Marseille, mais décide très vite de l'envoyer à Nice. Il sait que ce voyageur quelque peu encombrant est capable de lui créer un conflit avec le roi de France. Et autant vous dire que c'est plutôt à éviter. La suite de son voyage est un long fleuve tranquille. De Nice à Pise d'abord, puis de Pise à Rome, où son ami le pape le serre dans les bras en public pour marquer son bonheur de le voir à ses côtés. Jacques Coeur est sauvé. Mais ses péripéties, elles, ne font que commencer. Le pontife Nicolas V a des projets d'importance. Les mauvaises langues disent qu'il délire, mais peu importe. Avec le meilleur financier du monde à ses côtés, il ne peut que réussir. Et voilà Jacques Coeur embarqué dans une nouvelle aventure. Ce sera sa dernière.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H vous guide parmi les affres d'une vie extraordinaire, celle de Jacques Coeur, accusé à tort, d'abord d'avoir tué la favorite du roi, puis d'avoir détourné en masse l'argent public, l'ancien membre du Conseil royal est emprisonné à Poitiers. Plein de ressources, il met au point pour s'enfuir un plan digne des meilleurs romans policiers. Il va réussir, malgré la poursuite assidue des troupes du roi. Et le voilà maintenant en Italie, auprès du pape, en totale sécurité. Mais le souverain pontife ne compte pas lui offrir une retraite. Pas du tout même. Il a de grands projets pour lui. Ces projets vont même guider notre héros du jour vers la Terre Sainte. Nous sommes le 25 novembre 1456, dans l'archipel des îles grecques, sur l'une d'entre elles, à Chios. Aujourd'hui est un jour sombre. Au bord de mer, l'équipage d'un navire vient d'enterrer un homme connu de toute l'armada, Jacques Coeur. Depuis quelques mois, le souverain pontife est en lutte contre les Turcs. Son objectif, devant l'impossibilité de remonter une armée terrestre pour reprendre Jérusalem, est de monter une flotte capable d'harceler l'ennemi, de le déstabiliser autant que possible. Quelle meilleure zone pour cela que la Grèce ? Ensemble d'îlots disparates, permettant une lutte presque intestine pour chaque bout de caillou disponible. Le pape a eu cette idée il y a longtemps, mais n'a jamais eu les fonds pour la mettre en place. C'est là que les compétences de Jacques Coeur, à qui il vient d'offrir l'hospitalité après son incroyable évasion, sont particulièrement utiles. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il dispose d'un réseau que peu d'hommes en Europe sont capables de revendiquer. Ensuite, parce que son talent pour aller chercher de l'argent là où il est disponible n'est plus à prouver. Et bingo, cela paie. Et bien plus vite que le souverain pontife aurait pu l'imaginer. Une fois la somme nécessaire rassemblée, une trentaine de navires à la pointe de la technologie de l'époque sont achetés et mis à la mer. Le pontife demande ensuite également à Jacques Coeur de suivre de près la lutte qui s'engage. C'est là qu'il va donc trouver la mort, sous ce soleil de fin d'automne de Grèce, à l'âge de 56 ans. Mais que s'est-il passé ? De quoi l'ancien personnage omnipotent de France est-il mort ? Le sait-on avec certitude ? Eh bien, vous allez voir, le dernier mystère de l'existence de Jacques Coeur est loin d'être le plus facile à résoudre. La version officielle de la mort de Jacques Coeur est celle d'une maladie qui aurait emporté le grand homme en quelques jours. Certains chroniqueurs de l'époque ajoutent même qu'une blessure causée par une flèche ennemie aurait provoqué cette fièvre qui l'emporte. Bien, mais une fois que l'on commence à creuser un peu, les questions deviennent rapidement plus nombreuses que les réponses elles-mêmes. Une certitude existe. Jacques Coeur a été débarqué sur l'île de Chios, sur laquelle il est mort. Mais même la date de son décès est discutée. C'est compréhensible. L'épisode même de ses attaques chrétiennes a été assez mal renseigné. Alors, la mort de Jacques Coeur, l'enquête est difficile. Affaibli par ses années de prison, il aurait très bien pu succomber à la maladie. Certains parlent même d'un épisode de peste à cette époque sur les îles grecques. Pourquoi pas ? Mais d'autres, eux, évoquent plutôt une blessure mortelle qu'il aurait subie durant un combat naval avec les Turcs. Ouais. Alors qui croire, hein ? Il semble qu'il aurait en tout cas été enterré dans le cœur d'une église. Cet édifice sera lui-même détruit par les Turcs et ses restes, soit dispersés aux quatre vents, soit jetés au fond d'une fosse commune. Sacré programme. Son objectif inavouable était très certainement la reprise de Constantinople, tombée aux mains des musulmans depuis plus de 3 ans. Cet amoureux du monde latin et des chevaliers d'antan ne pouvait se résoudre à laisser la cité sublime aux mains de ses ennemis. Cette expédition avait aussi assurément un autre but, reprendre la route du Levant qu'il avait déjà parcourue en 1432 et ainsi se refaire une santé financière après son coûteux passage par la casse-prison. À l'époque, l'Orient offre encore toutes les perspectives de richesse possibles pour les marchands de sa trempe. Jacques Cœur, avant toute chose, c'est l'incarnation même de la réussite commerçante. Son seul regret, certainement, aura été celui de ne jamais revoir le roi Charles VII et de n'avoir jamais pu racheter son honneur honteusement vilipendé auprès de lui. Une fois mort, ses fils bien installés dans les arcanes de l'État vont se charger de le faire réhabiliter. En effet, rapidement après la naissance de l'affaire qui l'entoure, il sera de notoriété publique qu'il est innocent totalement de tous les maux qu'on a pu lui imputer. Ni empoisonnement, ni malversation financière, juste un homme dont le succès attira la défiance. Jacques Cœur, au fond, c'est l'histoire d'un homme dont la carrière fulgurante et l'ascension digne de celle d'une étoile filante a pu créer son lot de jalousie telle que ce sentiment généré chez ses pairs a provoqué sa chute. Mis en prison injustement, malmené, spolié de ses biens, celui qui sauva le royaume de France grâce à son porte-monnaie bien garni n'aura jamais été remercié à sa juste valeur par le roi Charles VII. Celui qu'il a longtemps considéré comme son ami n'aura pas hésité à le trahir à partir du moment où une dette s'est installée entre eux. Trouvant refuge auprès du pape, l'homme finance une dernière expédition digne du temps des croisades passées, durant lesquelles les rois chrétiens se sont battus avec foi pour le salut de Jérusalem ou Saint Jean d'Acre. Jacques Cœur a eu un destin comme la France en a peu connu, assurément. Si vous avez un jour l'occasion de visiter la pittoresque, mais non moins charmante ville de Bourges, arrêtez-vous au 10 bis de la rue Jacques Cœur. Vous y trouverez l'un des plus beaux trésors architecturaux de France, tout près de la cathédrale Saint-Étienne, l'une des plus célèbres en Europe. Aujourd'hui géré par le Centre des Monuments Nationaux, le palais qui porte le nom de son illustre fondateur est un remarquable édifice dont l'architecture reflète la modernité et la richesse d'un homme qui revint sur le lieu de ses racines pour faire ériger la merveille qui lui servit de lieu d'habitation et de réception. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec la devise de cet homme à la volonté farouche et à la détermination sans faille. À qui voulait bien l'entendre de son vivant, Jacques Cœur prononçait ces quelques mots. À cœur vaillant, rien d'impossible. Le jeu de mots jusque dans la démonstration du courage, sa formule, elle, est immortelle. Elle est inscrite dans la pierre de son hôtel particulier, dans la magnifique ville de Bourges. En latin, cela va de soi. Voilà donc pour ce récit épique que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.